remplis-nous de ferveur. Je voudrais lire d'abord un premier passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Verset 11. Et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Remplis-nous de ferveur, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 2, c'est la bien-aimée qui parle. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. Encore dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid, ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Remplis-nous de ferveur. Verset 20, Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme aussi moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Être rempli de ferveur. Nous lisons d'abord dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques nous présente le roi et sa bien-aimée, c'est-à-dire essentiellement Christ dans sa relation ou ses relations avec Israël comme épouse terrestre. Mais c'est une image aussi de Christ et de l'Église. Et dans le chapitre 4 en particulier, nous lisons et nous connaissons ce verset, verset 6 du chapitre 4, « Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. » Nous voyons que le bien-aimé s'absente, se retire et ce verset nous parle de la nuit de l'absence de Christ. C'est-à-dire pour nous, en image, c'est le temps actuel. Christ est absent sur cette terre, il est dans le ciel, il attend, comme il est dit, c'est le temps de la patience de Christ, il attend dans le ciel le moment de venir chercher son épouse. Et au chapitre 5, dans ce verset 2, nous voyons que l'époux vient à la rencontre de sa bien-aimée. Et le verset 2 nous dit que la bien-aimée n'attend pas son bien-aimé. Et elle est allongée et elle dort. C'est-à-dire au fond que son amour s'est refroidi. Son amour s'est refroidi et elle a cherché ses aises dans la maison. Elle se repose, elle dort, mais elle a un sommeil qui est agité. Il est dit, mais mon cœur était réveillé. Et sa conscience n'est sans doute pas en paix. Et si elle dort, on voit quand même que son cœur est travaillé, son époux est absent, son amour s'est peut-être refroidi. Et ce qui est étonnant par rapport au chapitre précédent, c'est la rapidité du changement des sentiments de la bien-aimée vis-à-vis de son bien-aimé. La rapidité du déclin de son amour. Et le cantique que nous avons chanté nous dit de nous réveiller, de sortir du sommeil et d'être rempli de ferveur pour le bien-aimé. Être rempli de ferveur, c'est-à-dire vivre de lui et pour lui. L'apôtre pouvait dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Qui c'est qui, dans cette salle, oserait dire qu'il vit uniquement pour Christ ? Absolument pour Christ, un cœur entièrement dévoué à Christ. Mais quand une âme a goûté l'amour du Christ, elle ne peut pas trouver le repos dans les aises de ce monde. Et nous savons que ce monde est trompeur, et si nous y cherchons nos aises, eh bien notre cœur ne va pas être en repos, bien au contraire. Et ce que nous pouvons constater dans le cantique des cantiques, c'est que si l'amour de la bien-aimée s'est refroidi, eh bien l'amour de son roi de son bien-aimé, c'est un amour qui est immuable. Et son amour à lui ne connaît pas de repos jusqu'à ce qu'il retrouve sa bien-aimée. Et nous voyons qu'il vient frapper à la porte. Il vient frapper à la porte de son cœur et il lui dit, il heurte, verset 2 au milieu, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Il frappe à la porte et cherche à se faire ouvrir. Et nous voyons que le bien-aimé, il s'adresse aux affections de la bien-aimée. Nous ne voyons aucun reproche, et nous voyons en cela la douceur de l'amour de Christ pour son Église, pour son épouse, pour sa bien-aimée. Aucun reproche. Au contraire, nous voyons qu'il lui dit « Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Eh bien, pour gagner le cœur de la bien-aimée, eh bien, il prodigue des termes d'affection et il cherche à gagner le chemin de son cœur. C'est quelque chose aussi de pratique quand quelqu'un s'éloigne, quand quelqu'un, on sent qu'il prend un chemin d'indépendance, il s'éloigne. La première chose à faire, c'est pour lui parler, c'est de gagner son cœur, c'est de prendre le chemin de son cœur. Et donc le bien-aimé lui rappelle ce qu'elle est à ses yeux. Et si son amour à elle est défaillant, eh bien, son amour à lui n'a pas changé. Voilà comment on peut gagner un cœur. Voilà comment Christ parle à son assemblée aujourd'hui. Il désire réveiller nos affections pour lui. Et de quoi lui parle-t-il à la bien-aimée? D'abord de ses affections pour elle, mais il ajoute « Ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. » En image, cela nous parle des souffrances du Seigneur. Et il désire lui toucher son cœur en lui rappelant les souffrances qu'il a endurées pour elle. Et si nous nous souvenons du verset 6 du chapitre 4, il parle de la montagne de la myrrhe, c'est-à-dire ses souffrances qu'il a endurées. Cette image des souffrances de Christ pour son Église. La myrrhe nous parle toujours dans la parole de Dieu des souffrances. Et la colline de l'encens, c'est ce parfum de bonne odeur qui est monté vers Dieu dans le ciel. Et il est prêt à entrer pour rejoindre sa bien-aimée. Mais il faut que sa bien-aimée lui ouvre son cœur. Et nous voyons en cela que Christ n'impose jamais sa présence. Il ne force pas la porte. Il frappe, il heurte, mais nous avons les uns les autres, quel que soit notre âge, à lui ouvrir notre cœur pour qu'il possède notre cœur entièrement. dans l'Apocalypse, au chapitre 3, connaissons bien ces passages sur Laodicée. Et nous trouvons une expression qui est semblable dans ce chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans les deuxième et troisième chapitres de l'Apocalypse, nous avons quatre églises, quatre assemblées qui vont jusqu'au retour de Christ. Il y a d'abord Thyatire qui nous parle de la papauté, du catholicisme à proprement parler. Il y a Sardes qui nous parle du protestantisme. Il y a Philadelphie qui nous parle plutôt du réveil, de tous les réveils, mais en particulier du réveil du XVIIIe siècle. Et nous avons Laodicée. Laodicée nous parle de la fin de l'histoire de l'Église responsable sur la terre. Et Christ n'est pas au milieu des deux ou trois. Christ est à la porte, dehors. Et ce qui signifie que sa place légitime de chef de l'Église, de l'Assemblée, ne lui est plus accordée. Et c'est extrêmement solennel de voir qu'à la fin de l'Église, responsable sur la terre, Christ est dehors. Et ce qu'il y a de remarquable quand on lit entièrement ce qui est dit sur Laodicée, c'est que ceux qui sont réunis dans cette assemblée, eh bien, ils sont absolument indifférents à ce qui ne soit pas là, à sa présence, à ses intérêts et à son honneur. Et alors, qu'est-ce que dit le Seigneur à cette église, à Laodicée ? Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'as plus la ferveur du premier amour. Et nous voyons pourtant plein de prétentions. Je suis riche, mais en fait des cœurs indifférents. Indifférents à son honneur dans l'Assemblée et indifférents aux revendications du Seigneur. C'est une assemblée sans doute qui avait des connaissances bibliques, puisqu'elle dit, elle ose dire, je suis riche. C'est sans doute un zèle pour des activités religieuses, des œuvres, mais beaucoup d'autosatisfaction. Mais Christ était dehors. Et on ne peut pas dire que dans cette assemblée, Christ était reconnu comme Seigneur et aimé et vénéré comme le chef de l'assemblée. Et bien au contraire, l'exemple de Philadelphie, un peu plus haut, nous voyons que c'est une assemblée qui n'avait pas de force ou peu de force et qui gardait la parole du Christ, ma parole, et qui n'avait pas renié son nom. Alors le Seigneur frappe. Il frappe aujourd'hui, comme il frappait à ce moment-là dans cette église de Laodicée, et il frappe aujourd'hui. Et Christ est à la porte. Et qui est-ce qui va ouvrir? Qui est-ce qui va lui ouvrir la porte? Ce qui est remarquable, nous ne voyons pas que le Seigneur menace d'un jugement terrible ceux qui sont dans cette assemblée. Il n'annonce pas que le feu et le soufre vont tomber du ciel sur cette assemblée à cause de l'oubli de lui-même. Mais nous voyons que les dernières paroles adressées à l'Église qui est maintenant ruinée sont pleines de grâce et de miséricorde. Et une miséricorde tellement tendre et saisissante. Et qu'est-ce qu'il propose le Seigneur à celui qui ouvre la porte, à celui qui ouvre la porte? Eh bien, la plus haute des bénédictions, quelle que soit la ruine la plus avancée, eh bien, le Seigneur y propose la plus haute des bénédictions, c'est-à-dire une bénédiction qui est proposée à celui qui lui ouvre d'entrer chez lui et de souper avec lui. Quelle chose extraordinaire, dans un temps de ruine comme aujourd'hui, de pouvoir individuellement, si les choses se sont tellement dégradées, d'avoir la possibilité, si nous entendons le coup sur la porte, de pouvoir lui ouvrir la porte de notre cœur, sans doute, pour avoir une heureuse communion avec lui-même. Et cette bénédiction de pouvoir souper avec lui, cette bénédiction ne va-t-elle pas réchauffer nos cœurs de telle manière que nous serons remplis de ferveur? Et s'il frappe, le coup est suffisamment fort pour que chacun de nous ici puisse l'entendre et nous réveiller. Est-ce que si nous entendons ce coup à la porte, ce dernier coup que le Seigneur va frapper à la porte de nos cœurs, est-ce que si nous entendons sa voix, est-ce que nous allons lui ouvrir? Et pour lui ouvrir, il faut enlever le loquet, il faut ouvrir la porte, et il entrera.
Nous l'avons lu en Romains 13, que le jour s'est approché, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Et l'apôtre, quand il parle aux Éphésiens, au chapitre 5, quand il parle de la lumière, que nous étions des ténèbres, mais que nous sommes lumière dans le Seigneur. Il dit au verset 14 que c'est déjà la lumière manifeste tout. Éphésiens 5, 13 et le verset 14, c'est déjà le verset 14, on pourrait le lire.
Éphésiens chapitre 5, verset 14.
14.
Car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi.
Oui. Réveille-toi, toi qui dors. L'apôtre compare un chrétien qui s'endort. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que le Seigneur va venir. Alors il lui dit de se réveiller. C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car le Seigneur va venir. Alors quand nous le réalisons, nous devons ainsi nous tenir à la porte, car le Seigneur est à la porte et nous l'attendons. Et si on s'endort, on ne l'attend pas. Alors on est comme dans un sommeil. Mais alors, Seigneur nous dit, alors, réveille-toi, toi qui dors. C'est aujourd'hui, on va dire, c'est déjà l'heure de nous réveiller. Frère, comme le dit le cantique, frère, réveillons-nous, car le Seigneur va venir.
Yeah. une interrogation. Dans ce que nous avons lu, entendu, par rapport à la Odyssée, est-ce que la comparaison entre la Odyssée et un rassemblement, ou une assemblée si nous voulons, dans quelle mesure cette comparaison est judicieuse? Ou est-ce que l'appel qui est fait d'ouvrir la porte n'est pas plutôt quelque chose d'individuel? Si c'est quelque chose qui concerne un rassemblement, une assemblée, Christ est dehors, comme il a été dit, puisqu'il est derrière la porte et il frappe. À ce moment-là, qu'en est-il de la promesse de Matthieu 18, 20 quant à la présence du Seigneur parmi les croyants assemblés? On peut considérer qu'à ce moment-là, notre présence le dimanche matin est vaine. Aussi, on peut considérer, et c'est comme ça que je vois la chose, cet appel à ouvrir lorsqu'on entend frapper est un appel individuel. C'est chacun, chacune d'entre nous à qui le Seigneur s'adresse pour que nous ouvrions nos cœurs, pour que nous puissions retrouver cette relation privilégiée avec lui. C'est une question que je pose.
Je ne vais pas répondre à ta question, mais apporter quelque chose d'autre. Dans Jean 5, quand le Seigneur est à Siloé, au réservoir à Bethesda, verset 5, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri et il prit son petit lit et marcha. La question du Seigneur peut paraître étonnante s'il était là, à Bethesda, à ce bassin-là. C'est bien parce que de temps en temps, il y avait cet ange envoyé qui agitait l'eau et que quelqu'un pouvait être guéri. S'il n'y avait pas eu cette possibilité-là, ben, il ne serait pas venu, il ne se serait pas installé là. C'était peut-être pas forcément l'endroit le plus rentable pour mendier. S'il était là, c'est bien qu'il espérait, tout en avouant qu'il n'avait aucune espérance de guérison. La question du Seigneur met justement cela à nu. Je ne peux pas marcher. Et pour aller à l'eau, il faut pouvoir marcher. On a un paradoxe complet. Pour pouvoir être guéri, de ne pas pouvoir marcher, il fallait pouvoir marcher. Autrement dit, la guérison m'est impossible. Je suis là pour être guéri, et la guérison m'est impossible. Et la réponse du Seigneur, qui peut paraître tout aussi étonnante que la première question, « Veux-tu être guéri ?» La deuxième question, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Mais il ne peut pas se mettre debout. À plus forte raison, il ne peut pas porter quelque chose et marcher de toute façon pas. Mais c'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit, par lui-même, il ne pouvait pas. Mais quand le Seigneur le dit, Aussitôt l'homme fut guéri. Première chose. Et alors il peut prendre son petit lit et marcher. Pourquoi ce passage? Quand on parle de sommeil, j'ai encore fait l'expérience ce matin même, quand on dort, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à l'extérieur. On n'entend pas les bruits, on ne voit pas la lumière du jour. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient secouer, réveiller, nous ne pouvons pas par nous-mêmes sortir du sommeil. Si on prend l'image du sommeil, on a un exemple dans Jonas. Jonas, au fond du bateau, alors que c'est la tempête, il dort. Les marins doivent venir le secouer, le réveiller. Réveille-toi, dormeur, pour qu'il soit mis en face de la situation qu'il a lui-même amenée sur ce bateau. Quelque part, dans ce passage de l'Apocalypse, on a quelque chose qui est un peu similaire. Être froid ni bouillant, être tiède, est-ce qu'on en a conscience? S'il n'y a pas quelqu'un qui interpelle, on ne s'en rend pas compte. Quand on est occupé de plein de choses, est-ce qu'on entend quand on frappe à la porte? On est en train de faire du bruit, est-ce qu'on entend quand on frappe à la porte? Quelque part, toutes ces interpellations sont là un petit bout de réponse à la question. C'est cette épître. On peut les lire sur trois niveaux. Et je crois que nous devons les lire sur trois niveaux, toujours, en même temps. Nous avons tendance à ne les lire que sur un niveau. Le premier niveau, c'est des lettres écrites à un moment donné, à des assemblées qui ont écrit existé et qui étaient dans un état que nous ne connaissons pas le détail et où, de manière symbolique, le Seigneur leur parle. C'est là l'interpellation. Le réveille-toi, il est, pour chacune de ces assemblées, dans cette lettre. Un deuxième niveau, c'est l'individuel. Qu'est-ce que toutes ces choses ont à me dire ? Je les prends pour moi indépendamment du collectif. Et le troisième niveau, c'est plutôt le côté prophétique. On a tendance à s'arrêter que à celui-là et à oublier les deux autres. Et du coup, ça embrouille peut-être les choses. Et effectivement, le côté prophétique est plus compliqué. Parce que nous vivons dans le temps prophétique. Nous n'avons pas, c'est pas comme si nous considérons des événements passés. Ce sont des choses qui sont en cours, nous n'avons pas le recul. Et alors nous avons peut-être le danger de fixer les choses alors qu'elles ne sont pas encore fixées et de figer des explications qui sont en cours, en train de se faire. Et que l'interpellation individuelle, elle est toujours là pour chacun de nous et elle peut s'appliquer de manière très différente à l'un ou à l'autre. Que signifie la tiédeur? Elle peut signifier beaucoup de choses pratiquement très différentes pour l'un ou pour l'autre. Mais ce que je retiendrai surtout là de nouveau, c'est nous avons besoin du regard, de la parole, de l'interpellation du Seigneur pour prendre conscience de notre état et de ce qu'il veut nous dire. Et alors là, nous pouvons, comme le paralytique, nous n'avons qu'une chose à faire. Mais moi, je ne peux pas. Reconnaître que nous ne pouvons pas. Reconnaître que c'est lui, et que c'est lui seul, qui peut nous mettre debout, qui peut nous réveiller, qui peut réchauffer nos cœurs, qui peut faire toute chose en nous pour marcher à sa gloire.
Chanter le sang.
Sang.